Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, dans la dernière chronique, vous nous avez proposé trois figures féminines, icônes de l'Europe. D'autres femmes méritent-elles d'être citées dans la construction européenne ?
Eh oui, Yann. Des femmes souvent peu connues ont ouvert la voie en incarnant aux côtés des hommes des combats européens. On peut les appeler les pionnières de l'Europe. C'est le cas d'Ursula Hirschmann, née en 1913 dans une famille juive de la classe moyenne berlinoise. Ursula Hirschmann adhère à 19 ans à l'organisation de jeunesse du Parti social-démocrate qui s'oppose à la montée du nazisme. En 1933, elle s'exile à Paris. Elle participe dans la seconde moitié des années 30, aux côtés de son mari Eugenio Colorni, jeune philosophe socialiste italien, à la résistance clandestine au fascisme. Elle suit son époux après son arrestation et sa relégation sur l'île de Ventotene par le gouvernement de Mussolini. Là, il rencontre Ernesto Rossi et Altiero Spinelli, deux intellectuels antifascistes. Les trois hommes rédigent en 1941 le Manifeste pour une Europe libre et unie, dit encore Manifeste de Ventotene, dont on considère qu'il pose les bases du fédéralisme européen. Ursula Hirschmann, laissée libre de ses mouvements en raison de sa nationalité et de la charge de ses trois enfants, ramène le manifeste en cachette en Italie continentale et contribue à le diffuser, notamment au sein de la résistance. En août 1943, à Milan, aux côtés de Spinelli échappé de Ventotene, elle fonde le mouvement fédéraliste européen et organise en 1945 à Paris le premier congrès fédéraliste international. Par la suite, Ursula Hirschmann découvre le féminisme et en 1975, elle fonde à Bruxelles l'association Femmes pour l'Europe avec l'objectif d'articuler fédéralisme et féminisme dans le cadre européen. Malgré des ennuis de santé, elle reste active jusqu'à son décès en 1991.
Alors, avez-vous une autre figure pionnière à nous proposer ?
Alors, contemporaine d'Ursula Hirschmann, Marga Klompé voit le jour en 1912 à Arnhem, aux Pays-Bas. Son père possède une papeterie qui assure une certaine aisance jusqu'à ce que de graves ennuis de santé plongent la famille dans la pauvreté. Étudiante brillante, Marga Klompé sort en 1937 diplômée de l'Université d'Utrecht avec un doctorat en mathématiques et en physique. Durant ses années d'études et jusqu'en 1946, elle enseigne dans un lycée de jeunes filles. En 1941, elle entreprend des études de médecine que la fermeture de l'université interrompt. Elle entre dans la résistance néerlandaise en 1942 et met en place un vaste réseau de femmes volontaires. Au sortir de la guerre, de façon inhabituelle pour l'époque, elle s'engage en politique et devient membre du Parti populaire catholique. En 1947, elle fait partie de la délégation néerlandaise à l'Assemblée générale des Nations Unies. Remarquée, elle est proposée à la députation et intègre le Parlement néerlandais en 1948. Quelques semaines plus tard, elle participe à la commission de l'Assemblée générale des Nations Unies chargée des questions humanitaires et des droits de l'homme, ainsi qu'aux négociations de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en décembre 1948. En Europe, elle est la seule femme à rejoindre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 1949. Trois ans plus tard, en 1952, elle est la première femme membre de l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Par la suite, elle participe aux travaux qui débouchent sur le traité de Rome. Dans son pays, elle est en 1956 la première femme ministre. En charge des affaires sociales jusqu'en 1963, elle fait adopter la première loi nationale sur la protection sociale universelle en remplacement d'une ancienne loi sur la pauvreté, mais aussi une loi sur les résidences pour personnes âgées. De 1966 à 1971, elle est ministre néerlandaise de la culture, des loisirs et des affaires sociales. Lorsqu'elle quitte la politique en 1971, elle est honorée du titre de ministre d'État en reconnaissant des services rendus au pays. Engagée dans l'Église jusqu'à sa mort en 1986, elle poursuit son combat contre l'injustice et pour la paix en tant que présidente nationale de la commission Justice et Paix nommée par le pape Paul VI.
À ces deux itinéraires de femmes pionnières, l'une dans le combat fédéraliste et féministe, l'autre dans le réformisme social, souhaitez-vous en ajouter un autre ?
Alors, il est un autre engagement très très différent. Il s'agit de celui de l'Italienne Nilde Iotti. Elle naît en 1920 à Reggio d'Emili, ville rouge d'Émilie-Romagne. Son père, cheminot et syndicaliste socialiste, licencié pour son activisme, meurt alors qu'elle a 14 ans. Grâce à une bourse, elle effectue des études de littérature et de philosophie et devient enseignante en 1942. En 1943, elle se rapproche du Parti communiste et entre dans la résistance en rejoignant les groupes de défense des femmes. Au sortir de la guerre, elle entre au conseil municipal de sa ville et est élue en 1946 à l'Assemblée constituante. Elle rédige la section de la Constitution consacrée à la politique familiale. En 1948, elle est membre de la Chambre des députés. Elle effectue 13 mandats consécutifs. Vice-présidente de 72 à 76, présidente de la Commission des affaires constitutionnelles de 1976 à 1979, elle devient présidente de la Chambre de 1979 à 1992. Bien que communiste, elle est une européenne convaincue. En 1969, elle fait partie de la délégation italienne au Parlement européen, où elle plaide pour l'élection au suffrage universel de ce même Parlement. En 1990, à Rome, elle ouvre la conférence des parlements de la Communauté européenne en déclarant, ouvrez les guillemets, l'Europe, donc, comme une grande opportunité de croissance démocratique et civile pour les peuples européens. En 1997, elle est élue vice-présidente du Conseil de l'Europe. La militante femme d'État meurt en 1999. À ces trois pionnières succède une génération de femmes créatrices, celles qu'on appellera les mères de l'Europe.